Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Alors bonjour Masha Schmitt.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter?
Masha Schmitt, artiste, peintre.
Ouais.
Plasticienne, moi, je dirais plutôt.
C'est quoi la différence que tu fais entre les deux?
Alors, il n'y a peut-être pas une différence, mais ça sonne à mes oreilles comme quelque chose de un peu plus éclectique. Il me semble, et moi j'ai l'impression d'être plus éclectique que juste une personne qui exploite le même médium. Parce que je fais plusieurs choses, enfin, différentes choses. Et pour moi, il y a des actions artistiques qui ne sont pas forcément de la peinture, mais qui continuent à contribuer à une sorte de recherche. Voilà, donc plutôt plasticienne.
Tu travailles à Paris, c'est ça? Tu as un atelier?
J'ai un atelier. D'ailleurs, c'est un atelier, comme tu viens de voir, qui est en même temps ma maison. Donc, c'est une sorte d'hybride. Je me suis habituée à cette situation et c'est finalement pas tellement plus mal. Mais c'est un appartement que nous avons transformé avec mon mari et donc nos enfants ont grandi entre les deux ateliers, entre la musique et la peinture. Donc c'est toujours dans le même appartement, mais...
Ah, c'est des pièces séparées quand même.
C'est des pièces séparées, oui. on a casé les enfants sous les toiles et sous le piano, donc tout va bien.
Bah, est-ce que c'est quoi ton parcours?
Alors, mon parcours est amusant parce que ma vie s'est déroulée, en tout cas, en plusieurs temps. Alors, ce n'est peut-être pas le dernier temps de ma vie non plus, mais j'ai eu une enfance russe et même soviétique, car je suis née à Moscou au siècle passé, n'est-ce pas? Donc, j'ai eu une enfance qui tombait dans une espèce de période complètement surréaliste, à la fois... irréelle, mais tout à fait intéressante dans un pays qui était censé durer éternellement parce que, enfin, en tout cas à nos yeux, c'était un truc inébranlable qui n'allait jamais tomber.
Ah oui.
Bon, semble-t-il, enfin tous mes copains français, ou en tout cas occidentaux, ont toujours pensé que ça allait durer éternellement. Ça avait quelque chose de kafkaïen, mais quand même de très solide comme ça en apparence. Mais voilà, donc cette espèce de colosse très étrange est tombé. Les pieds étaient visiblement même plus en argile, mais je ne sais pas en quoi, en sable,
c'est ça.
Tout ça. Et moi j'étais partie pour terminer mes études. Tout était très tôt, j'étais dans X écoles d'art étant même minuscule. Ça c'est très soviétique parce qu'on sélectionnait les enfants doués dans plein de domaines, au sport, dans ça on sait. Musique, bien évidemment. Et donc, c'était pareil pour art, ce qui est très triste parce que du coup, sélectionner un enfant parce qu'il est doué en dessin, moi, je trouve ça dingue. Mais bon, bref, on était quand même un peu sélectionnés, un peu comme les chevaux de course. Donc, il y aurait quelqu'un qui a dû considérer que j'étais douée. Je ne sais pas comment je suis encore vivante, mais j'ai dû passer à travers toutes ces histoires de Wunderkind avec sans doute une forme d'inconscience et une capacité de m'évader, autrement je pense que je ne serais jamais devenue artiste ni quoi. Donc j'ai fait plein d'écoles, j'ai fait des écoles à partir de l'âge de 3 ans, et c'était très bizarre.
Des à écoles... 3 ans, on a décrété que tu étais. Tu serais artiste quoi.
C'est pas qu'on a décrété que je serais artiste, mais on a décrété que j'allais aller dans une école d'art pour enfants, n'est-ce pas? Donc ça c'était Moscou en même temps, mais on a à l'époque. Et c'est quelque chose qui finalement, maintenant je m'occupe aussi même de ça dans ma vie de professionnelle, mais à l'époque on considérait que l'art c'est quelque chose de professionnel. C'est totalement utopique, parce qu'à la fois c'est intéressant, parce que ça a formé les gens plutôt très bons et très performants. Mais ce sont ça, les athlètes russes, n'est-ce pas, qui a, je sais pas, 5 ans et qui est capable de combattre. N'est-ce pas, c'était l'image de l'Union soviétique. Je ne veux pas rentrer dans des histoires politiques, mais c'est intéressant parce que la politique de l'éducation, n'est-ce pas, elle est toujours très... C'est finalement une espèce de grand storytelling. On doit expliquer au monde entier qu'on est les plus forts. Donc je pense que les pays du type Union soviétique, il y en a d'autres, hein, n'est-ce pas, ils développent leurs ressources parce que c'est une image de marque, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui représente le pays. Il y a un truc cynique derrière, mais en même temps, ça crée une sorte de professionnalisation des études d'art, des études de sport, des études de musique, des études de mathématiques, voilà, tout ça. C'est une histoire à part.
Crois que ça... Parce que ça peut être vrai tant dans le sport que dans les maths ou les arts. Est-ce que tu penses que ça annihile la créativité?
Alors, il y a plusieurs. C'est très complexe. C'est une... Quand je suis arrivée, par exemple, en France, étant déjà très très jeune, mais bon, j'avais déjà une expérience... un peu énorme, que pour mon âge, de toutes sortes d'académies et tout ça.
T'avais quel âge quand t'es arrivée ?
J'avais 22 ans. Mais je venais de terminer l'académie de Moscou, qui était un truc, lourd. Au point que je ne peux pas te décrire. Intéressant, mais très très lourd. Et au fait, j'étais invitée aux Beaux-Arts comme élève invitée. Il y avait une surprise. La vie, elle nous prépare toujours des surprises extraordinaires. Donc... j'avais une chance de tomber, presque physiquement tomber, dans une classe d'un professeur qui a trouvé ça drôle. J'ai dû pousser une porte par hasard et j'ai fait une entrée fracassante dans une classe. Je suis tombée en rentrant dans une classe de beaux-arts. Et le prof était mort de rire. Et puis après, il m'a demandé, tout le monde était très content, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai expliqué en anglais à l'époque que je venais de Moscou et il trouvait que c'était hilarant. Il m'a dit, mais je t'invite, enfin, amène ton travail, je t'invite. Il a fini par m'inviter, mais pour de bon, quoi. Et je me suis pincée pour croire que je me trouvais dans une académie, parce que le concept de l'académie que j'entendais jusqu'à maintenant était, c'est comme une académie... C'était l'Académie française probablement du début du 19e siècle. Quoi. C'était... Bon, on rigolait absolument pas. En plus, là où j'ai fait mes études, donc cette académie, ils ne considéraient même pas qu'être artiste était une profession. Donc j'ai suivi les deux parcours en même temps. Il fallait qu'on fasse une profession liée à l'artistique et un parcours de beaux-arts en même temps, de l'ordre de 60 heures académiques par semaine quand même. Plus les projets, plus tout ça. Donc, je ne sais pas, c'était 5 ans de ne pas dormir la nuit du tout, jamais avoir le moindre souffle. Et tout d'un coup, je me retrouvais dans un truc où il y avait des gens extrêmement décontractés qui accrochaient des petits papiers éventuellement sur des petits bouts de ficelle. C'était le début, c'était Jacques Lang, c'est le début du conceptuel. Et je me suis dit que c'est une blague. Enfin, moi, j'ai passé quand même un certain temps à me persuader qu'ils étaient vraiment, qu'ils faisaient les études dans une académie mythique, considérée dans les époques précédentes comme l'une des meilleures académies, bon, avec l'Italie, bien évidemment. Donc, c'était amusant. Mais je suis loin de croire qu'il y a un truc qui est meilleur que l'autre. Je pense tout simplement que c'est une vaste histoire politique, curieusement.
Oui.
Et donc, je pense que l'arrivée, enfin, ce n'est pas pour faire des contre-exemples, mais je comprends fort bien que l'arrivée de l'art conceptuel en France à cette époque était donc une sorte d'emprunt. N'est-ce pas, on a emprunté ça, enfin c'était une empreinte après Duchamp qui s'est exilé aux États-Unis et qui finalement a lancé une certaine histoire qui aboutit dans une forme d'art intéressante, vaste, mais un peu totalitaire, n'est-ce pas, parce que ça a dû prendre des dimensions incroyables. Donc, ça, c'est revenu en France un peu comme une invention américaine. Et ça a été un vrai changement, une vraie transformation, pas totalement naturelle, de tout ce qui s'est passé en France avant. Donc, les tendances artistiques ne nous amenaient pas vers l'art conceptuel ici. Donc, c'est intéressant comment c'est arrivé, et c'est intéressant ce que ça a pu faire, et c'est intéressant comment les artistes français ont pu voir, vivre, parfois subir, parfois prendre ça comme bonheur et libération, une sorte de nouvelle ère tout à fait intellectuelle. Et ce n'était pas inintéressant. Après, pour ce qu'on entend par l'académisme, c'est tout à fait autre chose. Moi, je ne vendrais pas mon histoire pour rien au monde, parce que je trouve que c'était très intéressant, extrêmement oppressant, l'académisme où on ne t'explique pas pourquoi et comment chercher, où on t'impose des techniques, des formes. C'était d'un rigide incroyable. Il fallait qu'on répète à l'infini. Enfin bref, alors, je crois que c'était beaucoup ça. Mais alors, si je ne suis pas devenue folle, si je ne suis pas complètement, si je n'étais pas complètement détachée de l'idée que j'allais être artiste, c'est vraiment, je pense, grâce à ma capacité de m'évader, d'être un peu ailleurs. Un peu pas totalement pas croire à ce que me disait, parce que ça a été pour moi dépourvu du sens profond. Donc c'était juste vraiment les apprentissages et les répétitions. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que ça développe c'est aussi une forme de méditation. C'est un énorme savoir-faire. Après, tu peux le jeter par la fenêtre, mais il revient sous différentes formes. Donc je suis très reconnaissante à mon destin de m'amener par cette espèce de chemin. Mais bon, c'est vrai que c'était très différent. Et donc, je suis arrivée en France, j'étais donc du coup parachutée depuis... Ah oui, l'Union soviétique s'est effondrée derrière. C'est pas de ma faute, mais ça coïncidait beaucoup. Et donc, je suis restée là, et ma vie numéro 2 a démarré. Et c'était une vie extraordinaire, passionnante, plein de création, plein de bonheur, d'amour, de rencontres, de plein de choses intéressantes, quoi. Enfin, donc, oui, différentes.
Oui.
Et j'ai tout repensé. Enfin, je n'avais pas du tout récupéré tout ce que je savais faire avant. J'ai un peu tous les... C'est marrant, hein, c'est drôle. J'avais senti que c'était le moment, et peut-être une chance extraordinaire, de ne pas reprendre le fil et de me réinventer. Donc j'ai un peu inventé ma bicyclette, quoi. Enfin, j'ai passé 2 années à revoir le pourquoi je ferais ça et pas autre chose.
T'es restée 2 ans aux Beaux-Arts, c'est ça que tu dis, de Paris?
Non, c'est aux Beaux-Arts, oui, je suis restée même plus, mais j'étais pas une très bonne élève. C'est pas les Beaux-Arts qui m'ont aidée vraiment à retrouver ce que je devais faire, retrouver en moi un truc indispensable. Par contre, c'était intéressant, c'était une expérience intéressante. Je ne veux pas dire que grâce à un professeur et tout ça. Ouais. Mon professeur, donc celui c'est Épine Casse, c'est un spécialiste, formidable spécialiste des techniques de la peinture, un type tout à fait adorable. Alors, en plus, il a joué un rôle, sans le savoir, je pense, majeur dans mon destin, en m'invitant. Il y avait plein de choses qui ont suivi. Mais lui, d'ailleurs, il n'était pas du tout... C'était pas un artiste conceptuel. C'était un technicien, bizarrement. Et lui, il voulait que je sois dans son cours aussi, parce que j'étais une technicienne.
Ah, oui,
c'était
oui.
Amusant. Donc, je me retrouvais avec ce type qui était comme un alchimiste, qui invitait des chimistes en classe. Et c'était tout à fait drôle. Mais lui, c'était une curiosité. Et moi, je pense aussi, j'étais un peu un mouton à 5 pattes.
Ah oui, oui.
Pour les étudiants, j'entends. Ouais. Parce que j'étais pas plus grande qu'eux, mais complètement avec un background. C'est comme si j'avais une longue barbe blanche, quoi.
Enfin, oui. Mais c'est vrai, moi, au Beaux-Arts, j'avais un ami qui sortait de... Donc, on était en deuxième année, je crois. Qui sortait de l'université de Pékin, il me semble.
Oui, c'est le même genre de truc.
Mais incroyable. Mais c'est... Enfin, était dans la même année que lui. Enfin, c'est sûr que c'est surprenant, quoi.
Mais justement, les histoires techniques sont traîtres, parce que c'est drôle, parce que là, j'enseigne les techniques de peinture dans une aux Beaux-Arts de Meudon, mais juste un cours, mais les techniques, ça, décidément, ça me poursuit. Enfin bref, je pense que la technique toute seule, il est vrai que les systèmes à la soviétique ou à la chinoise, quand je dis à la, c'est que ça, je suppose que ça existe quand même ailleurs, quoique, pour le coup. Il faut vraiment un pays fermé et il faut un régime assez strict pour pouvoir maintenir dans la tête des jeunes artistes cette idée qu'ils doivent à quelqu'un, à une sorte de passé glorieux probablement, à une sorte de forme d'art qui n'existe plus. Enfin, il est évident que ça n'existe plus.
Oui.
Il est évident que la photographie et le cinéma ont apparu au 19e siècle, donc on ne va pas imaginer une seconde que c'est le peintre ou un dessinateur qui va servir, avoir le même rôle qu'il avait juste avant, quoi. Enfin, que c'est le seul qui va être le chroniqueur, n'est-ce pas ? Donc, celui qui a la possibilité et la capacité de garder l'image du monde qui ne se répétera plus jamais.
Oui.
Donc, c'est fini. Alors, c'est fini depuis un siècle et demi, voire plus.
Oui.
Il est hors de question de continuer cette espèce de tricherie. Mais les prouesses techniques restent indispensables, semble-t-il, pour certaines personnes. Je pense qu'il y a une sorte de réaction aussi dans l'esprit des gens, de quelque chose qui est bien fait. À ce moment-là, ça ressemble à la photo. Et puis, une sorte de fierté des techniciens, de la technique pour la technique.
Ouais.
Personnellement, je trouve ça touchant, mais absurde.
Dans l'art, en tout cas.
Dans l'art, oui. Mais c'est complexe. Et en même temps, plus le temps passe, plus je me dis, toute expérience, à partir du moment quand c'est une expérience sur laquelle on est capable de réfléchir et d'avancer. Toute expérience qui n'est pas un pavé, n'est-ce pas, qu'on dépose quelque part. Toute expérience est géniale. Donc, comment ? On ne sait pas. Ça peut prendre toutes sortes de formes.
Ouais.
Mais oui.
Et c'est singulier pour chacun. Mais c'est vrai que dans cette technique, dans la manière dont tu parles, il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a surpris. C'est le rapport au temps. Tu vas prendre le temps d'apprendre et puis de transformer et puis de te trouver. Je ne suis pas sûre qu'on ait cet équivalent-là.
Je ne crois pas.
Tu vois, enfin,
mais contrairement peut-être à des personnes qui auraient pu utiliser, enfin, intelligemment utiliser leur savoir-faire ou leur expérience, moi, tout ce que je voulais faire, c'est de retrouver le sens. Parce que moi, je sais pas, ça se trouve, si on me torture un peu maintenant, je pourrais de nouveau peindre comme je le faisais de ma vie avant, parce que c'était un must, il fallait qu'on travaille comme ci et comme ça. Mais je trouvais ça hautement dérisoire. Enfin, je trouvais ça inintéressant et pas courageux. Oui. Mais c'est moi qui me suis imposé ça. Parce qu'il y a des gens qui seraient probablement très très contents d'avoir aussi cette, n'est-ce pas, cette flèche à leur arc. Quoi. Enfin, je pense que ça, c'est une question de point de vue sur ce qu'ils veulent, sur qui ils sont. Et moi, je suis partie, peut-être c'était une réaction, je suis partie vers le sensible, vers le non verbal, vers le non descriptible, autant que j'ai pu. Et ça continue toujours. Ouais. J'aimerais que j'arrive à, si j'arrive, hein, c'est pas évident, mais tout ce qui m'intéresse, c'est l'impalpable. Enfin bref, un truc presque pas dessinable, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
On est dans une situation où il faut tenter la sincérité. Parce que le monde qui nous entoure est tellement complexe, tellement plus on avance, j'ai l'impression, plus il devient complexe, multiple. Départager un mini-morceau, c'est une espèce de réverbération tellement dingue. Et j'ai l'impression que ça va aller vers cette décomposition. Il me semble que les gens qui ont vécu, par exemple, il y a un siècle, ils étaient probablement perdus. Oui, oui, non, mais c'était quand même une époque grave. Bon, allez, on va prendre fin 19e, un peu plus sécurisé, sinon on tombe dans les grandes guerres. Je crois que l'image de l'univers était probablement énigmatique, mais il y avait des repères plus clairs pour les gens qui, entre autres pour des personnes qui regardaient l'art, parce que l'artiste avait tout de même une position évidente. Il avait un certain nombre de devoirs, je pense, quelque part. Si on ne choisissait pas être artiste parce qu'on voulait, en tout cas plasticien, enfin, ce n'est pas un truc pour exprimer ses idées.
Ouais.
Il y avait quand même une affaire de transmission du réel. Je pense qu'il y avait une affaire de lutte contre la mort et l'oubli, parce que l'image qui reste, par exemple, si on prend le cas d'un portrait, c'est quelque chose qui demeure, et or que la personne n'y est plus. Et donc, cette image, là, ça me paraît ridicule, parce qu'on va prendre 114 selfies par seconde, ou je ne sais pas combien, et on peut le faire toute notre vie, donc... notre image ne disparaîtra jamais. Enfin, on peut être enseveli sous nos images virtuelles, etc. Mais quand on recule de seulement 2 siècles, on comprend bien que c'était une affaire d'exception.
Ouais.
C'était une vraie victoire contre le néant pour une personne qui pouvait avoir son portrait. Un truc extraordinaire. Probablement, on se sentait différemment. Enfin, après, il y a une histoire sociale derrière. Mais en tout cas, on imagine la place de l'artiste. C'était lui le démiurge, à la limite, qui rendait la personne immortelle. Et c'est que ça. Il y avait aussi une grande histoire pédagogique. Enfin, il y avait une histoire spirituelle qui se racontait à travers les œuvres des artistes. Donc on comprend bien qu'on est dans une histoire de BD quand on rentre dans une église et que la plupart des personnes qui allaient écouter la messe tous les dimanches ne savaient pas lire, par exemple. Les images... C'était ça. Les images remplissaient leur vie, mais c'était les images probablement répétitives. Et peut-être c'était une autre forme de méditation. Là, on vit dans une... C'est même pas que ça a changé. Le monde est différent. C'est pas que ça a changé. C'est plus du tout ça. On est ailleurs. Donc, je crois que l'artiste se pose d'autres types de questions. Et ça vaut le coup de se les poser, parce que sinon, pourquoi ? Je pense qu'il faudrait qu'on réalise, pas intellectuellement, ça peut être quelque chose d'émotionnel. Toi, tu dis que c'est dans le corps, donc une réaction émotionnelle. Et ça, c'est génial. Quoi. Enfin, ça, d'un côté, c'est ça. D'un autre côté, ça se trouve, peut-être on peut avoir d'autres missions. Mais la mission de transmission de réalité, elle est différente, mais elle ne disparaît pas complètement. C'est-à-dire qu'on peut rester sensible... des problèmes de ce monde, mais par contre c'est pas suffisant de je sais pas, c'est pas pour parler de quelque chose de bouleversant, c'est pas suffisant de dessiner cette même chose sous forme d'un dessin explicatif. Ça n'apporte pas du tout la même chose que ça aurait pu apporter ailleurs. Quand Goya allait sur les champs de bataille étant bouleversé, ça l'a rendu d'ailleurs complètement fou. Je pense qu'il ne pouvait pas ne pas remettre les désastres de la guerre après au reste de l'humanité, même si ça restait quelque chose d'effrayant, même pour lui. Enfin, bref. Là, on est ailleurs, et je pense qu'ailleurs, on devrait. Mais notre force, je pense, elle est étrange. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on devienne soit mutant, soit il faudrait qu'on assimile le reste des médias, qu'on les avale. Qu'on les régurgite sous autres formes, soit il faut qu'on arrive à savoir de quoi on parle. Et du coup, je pense que l'artiste ne peut pas rester cet être sympathique, un peu, n'est-ce pas, un peu l'image de la bohème, un peu un mec écervelé qui peint un truc, mais qui est pas très. Qui est tout dans la sensibilité, mais sans réflexion vraiment, qui est un bon sauvage comme ça. C'est pas tout à fait le même truc. Donc, je pense qu'il faut être attentif. Moi, je suis pour l'histoire de réfléchir sur ce qu'on raconte.
Je pense qu'autant le fait que l'apparition de la photographie, puis du tube de peinture, enfin, tout un tas de conjonctures qui ont fait que la convention de l'Académie des Beaux-Arts a changé à la fin des années 1800.
Oui.
Moi, je pense qu'Internet est en train de changer. On est en train de vivre la même révolution. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Avec Internet.
Bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est aussi ça. C'est pour ça que je disais que c'est un autre monde et probablement une autre planète, parce que la quantité d'images... Parce qu'on est, en fait, fatalement les faiseurs d'images. Hein. Enfin, être artiste, sculpteur, vidéaste, tout ce qu'on veut. Enfin, on continue à créer des images. À quoi bon si on est cynique, enfin si on est en tout cas très 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 réaliste, pas besoin d'être cynique, juste réaliste, on se dit mais c'est pas possible. Là, on n'a plus besoin d'images. Il y a trop d'images.
Oui.
Il y a trop d'images. Il y a trop d'images répétées. Il y a trop d'images diversifiées. Et on est, en fait, on se noie dans une espèce de mer qui ne fait que grandir. Donc, c'est courageux dans cette situation de se dire non, non, j'ai encore un truc à dire.
Oui.
Donc, quelle est cette chose à dire qu'on doit dire obligatoirement quand on choisit ça comme métier? Ça, c'est un truc. J'ai l'impression qu'il faut vraiment, vraiment être quand même conscient de ça. Et personnellement, j'ai l'impression que ce qui nous manque, c'est justement le temps. Enfin, c'est le temps de. C'est un temps suspendu, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'homme qui vit maintenant, je n'ose même pas dire l'homme actuel, l'homme contemporain, enfin, ça serait trop d'aller à droite et à gauche.
Oui.
Quelqu'un qui vit maintenant, à la limite, quelle que soit sa perception de l'art et de la vie, ça se trouve, c'est quelqu'un d'organisé, qui va au travail, qui rentre le soir et qui ne se préoccupe pas de tous ces flots d'art ou d'images ou de films ou de quoi. Même les gens qui n'ont pas l'attaque des images, je pense qu'ils ont accéléré leur rythme dans la grande majorité, en tout cas dans le monde occidental. On est tous obligés de courir plus vite, tout se chauffe plus vite, tout coule plus vite et se décongèle plus vite. Et les images, je ne sais pas, j'imagine, en te parlant, j'imagine une espèce d'accélération comme on a vu dans les dessins animés ou quoi, où tout d'un coup, tout s'accélère à des grandes vitesses. Globalement, c'est ça. Et je pense que ça nous fait exister autrement, quoi. Ça nous oblige à respirer à une autre vitesse. Ça change nos séquences de vie. C'est peut-être pour ça que les gens sont tellement demandeurs de stages de méditation, de je ne sais quoi, de respiration, de machin, de yoga. Tout le monde veut faire du yoga. C'est un truc inédit, quoi. Enfin, je pense que... Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment faire un corps pour avoir une seconde à soi. Et un corps, c'est pour faire autre chose. Ce n'est pas pour être juste là. C'est juste pour... parce qu'on pense que c'est bon pour nous. Enfin, je ne sais rien. Enfin, bref. Donc, ça, c'est absolu... conscience de ne pas avoir le temps. Je suis aussi victime de ça. Enfin, je pense que ça va finir par nous avaler complètement parce que la vie, justement, elle passe. Et le monde, avec ses merveilles, disparaît tous les jours. Toutes les secondes, ce monde sublime meurt et on est inconscient. Impossible de se rendre compte quand tu réponds à 12 000 messages, quand tu travailles sur ton ordi et tu planifies ta journée qui grossit avec je ne sais pas combien de mails auxquels tu dois répondre. Enfin, tout ça, c'est banal. Et je ne l'ai pas inventé, je l'ai ressenti. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui m'ont paru indispensables. Et j'allais intuitivement vers ce type de peinture, en tout cas. J'ai essayé de travailler sur les choses qui flottent. Ça, c'est totalement utopique parce que je ne peux pas, n'ai pas arrêté mon format, mais mes compositions sont à chaque fois fragmentaires et je pense que c'est parce que je ne veux pas, même symboliquement, imaginer qu'ils sont là et c'est tout. Le fragment signifie, plastiquement parlant, pour moi, une forme qui existe ailleurs. On était obligé de l'arrêter parce que le format est comme ça, mais sinon, derrière, ça continue quelque part. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je travaille sur des phénomènes du monde, quoi. Enfin, j'essaye de... toutes les choses qui me bouleversent, par exemple, mais qui ne sont pas explicites, quoi, qui ne sont pas tout de suite dessinables, qui ne sont même peut-être pas filmables, c'est-à-dire des choses en mouvement. Enfin, on ne peut pas filmer le mouvement, clairement, ce que je veux dire. Même si on crée une vidéo de 1000 heures d'une rivière qui coule, et ben, ça va être des cadres... n'est-ce pas, à chaque fois, d'une nouvelle rivière qui coule de nouveau, n'est-ce pas? On n'est pas obligé d'être Saint-Augustin pour comprendre ces histoires temporelles impossibles à résoudre. Mais c'est précisément là où je trouve ça important. C'est les choses où tout d'un coup, on pousse les frontières du temps symboliquement. Je sais que la mort viendra. je suis au courant, mais je me dis qu'il y a peut-être des moments où les choses peuvent être comprises. Pour ça, il faut être quand même vachement éveillé et plutôt arrêté. Du coup, moi, je suis ni spécialement éveillée, je crois, ni spécialement arrêtée. Je cours beaucoup et je fais beaucoup de choses. Mais la peinture que j'essaye de pratiquer, que je tente à aboutir, c'est des choses, des vibrations de l'eau, de l'air. Ce sont des processus dynamiques qu'on dessine, je ne sais pas comment, pas vraiment, quoi. Enfin, je pense qu'on peut pas les dessiner. Si on parle juste du phénomène, on peut dessiner un bateau qui, n'est-ce pas, qui lutte contre les vagues, ça va être sans doute dynamique, mais j'entends que ça, c'est une image arrêtée et pleine de sens littéraire, notamment. Moi, je parle des vibrations, des espèces de formules que j'essaye de découvrir grâce à mon médium. J'essaye de comprendre, en fait. Tout ce que je veux, c'est de percer quelque chose. Mais c'est vachement difficile. Et la peinture, c'est un super médium pour ça, je pense. C'est un moyen, pour moi, c'est un moyen de comprendre, de ressentir, de vivre, de... Voilà. Donc, je sais pas, ça donne des trucs étranges, je pense, mais qui, pour moi, ne sont pas abstraites. Ce sont juste des tentatives de rentrer dans la vie, quelque chose comme ça. Voilà.
Tu fais de la gravure aussi, j'ai vu.
Oh, je fais plusieurs choses. Je fais pas beaucoup de gravure, mais je fais quelquefois des monotypes. En fait, je change beaucoup. Là, je suis sur une série de toiles plutôt des grands formats parce que je dois avoir une grande expo et des formats assez monstrueux. Donc là, je suis plus sur mon mur en train de teindre mes très très grandes toiles. Mais sinon, c'est plein de choses. Et puis, justement, je trouve ça vachement intéressant de travailler sur des petits et des grands parallèles parce que tout est là, quoi. On ne fait pas la même chose, mais je trouve ça très très intéressant. Donc, je poursuis mes séries avec une espèce de maniaquerie évidente, mais en même temps, je trouve que c'est très amusant de faire des sauts à droite et à gauche. Et je crois aussi beaucoup à cette histoire de l'heure qui existe uniquement dans les yeux du regardeur. Les physiciens quantiques disent la même chose, donc ça me rassure. Donc, quand on ne regarde pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, la Joconde, elle va danser ou quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus la personne qui regarde qui va faire vivre l'œuvre, je pense. Ça concerne absolument tous les arts, mais je crois en particulier les arts visuels, bien sûr. Mais je pense tout de même que c'est une peinture qui n'a la mienne, en tout cas. J'espère qu'elle donne un moment du souffle. C'est tout ce que, à la limite, ça serait le comble pour moi.
Ouais.
Que quelqu'un qui la regarde juste respire tranquillement et reste un moment. Juste ça. Ça sera formidable. Parce que je reviens à cette histoire du monde qui court et de cette accélération. Je dis pas, je suis pas du tout anti-internet parce que tu évoquais l'image de l'internet. Cela dit, je pense que la machine humaine, l'être humain, n'est absolument pas prêt à cette révolution. Et ça, je pense que ça l'abrutit, au fait, ça le rend fou. Et donc, je pense c'est passionnant, c'est extrêmement important. J'utilise l'internet tous les jours, même les réseaux sociaux. J'essaie de diminuer tant que je peux, mais je les utilise aussi. En même temps, je pense que ça creuse notre tombe parce que c'est évident qu'au niveau du sensible et de la vraie connexion, serait-ce qu'à la nature ou à l'autrui, je pense qu'on perd à une grande vitesse des capacités. Peut-être qu'on peut devenir ultra empathique par rapport à un chat qui est en train de mourir à un autre bout de planète. Je dis ça sans ricaner, quoi. Enfin, peut-être on peut être plus... au courant des choses, et que ça c'est évident. Mais j'ai l'impression que nos capacités émotionnelles sont perturbées. Tu vois pourquoi? Parce que trop, et ce trop, on n'arrive pas, je pense, à faire avec. On ne sait plus comment réagir. Les degrés de réaction sont complètement déréglés, quoi, parce qu'on ne sait plus. Donc, je reviens à la peinture. ça m'est arrivé, et là j'étais vraiment très heureuse, je me disais tout ça c'est pas pour rien. Ça m'est arrivé de voir les gens qui passent à un plomb au fait devant une toile, pas parce qu'ils n'ont rien compris ou qu'ils doivent comprendre, c'était même pas une histoire de comprendre, il n'y a rien à comprendre, mais juste l'histoire de se promener, quoi. Juste l'histoire de éventuellement passer un moment avec soi-même ou à penser à leurs propres choses. Il paraît qu'il y a quelquefois cette possibilité devant les peintures qui regardent des séries que je propose. Que je propose pas, que je fais, et puis après ils sont proposés, et puis du coup après je vois des tas de gens qui sont là un peu longtemps. Et je me dis, youpi, pour moi c'est la plus grande, parce que je me dis, ils ont eu peut-être une minute dans leur vie où ils n'ont pas pensé à tout le reste, où ils ont pu s'évader. À part ça, je pense que je sais pas, je fais pas que la peinture, j'enseigne, j'ai fait énormément de scénographie de théâtre et j'ai fait aussi du cinéma, mais toujours de côté de l'image. Et moi, je crois que au fait, il y a beaucoup plus d'art dans nos vies qu'on y pense. Et si on regarde autour de nous, il n'y a pas un objet, l'ordinateur y compris, qui ne soit pas une conception artistique, donc un fruit d'une réflexion et d'une création de quelqu'un qui va être un artiste. Vous n'imaginez pas, enfin, je ne sais pas ce qui va rester. Il n'y aura même aucun jardin, juste pour faire peur à tout le monde. Je pense qu'aucun objet produit dans notre monde, rien, peut-être les arbres et les animaux à la limite, si on a laissé quelques-uns, donc ça ne va pas être le fruit de notre imagination, de notre conception artistique ou intellectuelle, ou les deux, mais en tout cas leur forme. L'esthétique du monde est un fruit d'un travail des artistes au sens large du terme. Donc il faut juste regarder le mot design, rien que la traduction de ce que c'est très intéressant. Enfin, on traduit en tout cas le concept de design comme on parlait de l'artiste qui reçoit le souffle divin à l'oreille quelque part. Donc je ne sais pas si on reçoit tous ce fameux souffle, si le dieu nous souffle à l'oreille ce qu'il faut faire comme cuillère, mais c'est quasi ça, quoi. Donc moi je pense que chaque objet, chaque tabouret, je vise un tabouret, je me dis oui, pas mal finalement, chaque tasse, chaque fringue, toutes sortes de choses qu'on tient entre les mains et qu'on côtoie dans nos vies, et portent une empreinte de cette conception et probablement d'une révélation artistique. Donc, je ne vois pas pourquoi on prendrait les artistes avec une grosse pincette, on le mettrait dans une espèce de machin de laboratoire en disant que ce sont des gens particuliers. Je ne sais pas si on est tous artistes, mais on est beaucoup plus artistes qu'on y croit. Je pense que quelqu'un qui conçoit un objet industriel ne peut pas ne pas réfléchir à ce que l'artiste côtoie dans son travail quotidien, à savoir les rapports spatiaux, la composition. Après, ça peut être, c'est pas que des histoires esthétiques, ce sont des histoires du sens, quoi. Je crois qu'il y a des grands artistes qui ont pu créer, comme Léonard de Vinci, les choses extrêmement diverses et à chaque fois extraordinaires d'une intelligence cosmique. Mais il y a aussi des gens qui créent quotidiennement des objets d'art sans le savoir, ou qui produisent des idées artistiques sans se rendre une seconde compte. Donc moi je me dis que ça va, on a quand même cette présence de l'art, de tout ce qui n'est pas naturel. Je reviens à ça. Parce que l'artificiel, n'est-ce pas, ou l'artistique, vraiment on est dans la même racine. Tout est là, quoi. Donc je pense que si on est un tout petit peu plus éveillé, légèrement plus concentré, étant tous les êtres humains les uns à côté des autres, on se serait probablement plus rendu compte de ces choses, quelquefois de ces intelligences, de ces beautés.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un artiste qui débute sa carrière?
Je ne suis pas une super donneuse de conseils. ce que j'ai fait il y a 20 ans, je pense que j'ai bien fait de le faire. Je pense que j'ai passé un temps, mais ça c'est totalement, j'espère, humain, à combattre mes doutes et mes peurs. Entre autres, la trouille de ne pas être comprise, de ne pas être suffisamment claire, de ne pas être dans ce que je faisais, j'entends, de ne pas faire exactement comme il faut ce qu'il faut. Je faisais quand même un peu à ma tête, mais je me disais, oh non, 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 ça c'est pas tendance, ça c'est pas ceci. Là, j'ai lu plein de livres en permanence qui me... Il y a certaines lectures qui m'ont carrément déprimée. Je me disais que les choses, quand tu lis les trucs sur l'art mainstream, sur le système, sur le marché de l'art, je pense que ça peut être une lecture à la fois qui t'enlève les lunettes roses, mais ça peut être aussi un coup de poing énorme, enfin, genre quelque chose de très très violent, parce que tu te rends compte que... dans l'expression marché de l'art, il faut absolument barrer le mot l'art et plus se concentrer sur le mot marché, parce qu'il y a des lois du marché. On comprend qu'il y a un fonctionnement qui est un peu tordu, mais qui est un fonctionnement quand même tout à fait logique et tout à fait calculable. Donc à la limite, tout artiste qui décide de faire carrière et qui n'est pas artiste mais un calculateur peut trouver une place sur le marché de l'art. Et ça, pour les gens qui ont un gros cœur et des espérances et peut-être une grande sensibilité, ça peut être quelque chose d'impardonnable. Ça peut leur envoyer une flèche empoisonnée en plein cœur. Et moi, je suis contre. Parce que moi, je pense que je crois qu'il faut être super conscient des choses essentielles. J'ai l'impression que la vie est 10 fois trop courte pour s'empêtrer dans des histoires qui ne sont pas nos histoires. Après, je respecte infiniment les gens qui font un art actuel. Je prends des guillemets, parce qu'on fait tous un art actuel. Mais qui sont donc... qui ont compris ce qu'il fallait faire pour avancer. Qui ont cette conscience de comment mène-t-on des carrières à l'heure actuelle. Je les respecte tout à fait, parce que c'est une prise de position également.
Oui, tout à fait, oui.
Mais je pense que si on est né avec... Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je décide que je m'adresse à cette personne. Enfin, je me fais plaisir et je m'adresse à elle. Si je pense que c'est quelqu'un d'excessivement sincère, et je lui dirais de faire complètement confiance à ce qu'il pense être sa bonne étoile, de faire tout ce qui est possible et impossible pour garder cette espèce de feu. Je ne pense pas une demi-seconde. Or qu'on me l'a dit toute ma vie quand même, fais attention, être artiste, c'est instable, c'est ceci, c'est machin. Je sais, c'est instable alors. Je vous raconte, juste, c'est instable. C'est, il faut être complètement dingo pour le faire. Mais si vous sentez que vous devez le faire, et si vous sentez que vous ne pouvez pas ne pas le faire, c'est un cadeau. Empoisonné, d'accord, mais c'est un cadeau. Il faut être, je pense, totalement fidèle à ce qu'on croit être... le mot inspiration ne vient pas du tout, mais notre intuition, moi je dirais. Après, c'est difficile parce que la question suivante est comment on fait pour manger éventuellement, ou bien est-ce qu'on met une croix énorme sur nos vies de famille, parce que quelquefois c'est juste techniquement difficile. Moi je pense qu'il faut, à ce moment-là, il faut tricher avec. avec, je sais pas moi, même pas, non, il faut pas tricher, mais il faut trouver des solutions qui peuvent nous permettre à réaliser ce qu'on croit être indispensable, et il faut peut-être pas arrêter de chercher, parce que je pense qu'un artiste, s'il cherche plus, s'il trouve, c'est Picasso qui disait ça, non mais s'il est persuadé qu'il a trouvé, je sais pas, il y a des gens qui cherchent un style, enfin moi je trouve ça dingue, mais bon, si on pense qu'on a trouvé, je pense qu'on peut se poser des questions, et à ce moment-là, je ne sais pas moi, vite faire un voyage initiatique, je ne sais pas où, traverser le désert et essayer de voir ailleurs, parce que difficile à trouver, sauf peut-être trouver un truc à succès, mais ça c'est une autre affaire. Je pense qu'il ne faut pas cesser une seconde les efforts et Et je pense qu'il faut maintenir le feu. Il ne faut pas que les conneries du type « les gens normaux font autrement » devraient éteindre ce feu. Donc moi, je dirais ça. C'est sans doute un très mauvais conseil.
Superbe, merci Macha.
Je t'en prie. Merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir, ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.